Bonsoir à tous. Et la flamme s'est allumée au centre d'un flocon de neige. Le président chinois ouvre les 24e Jeux Olympiques d'hiver. Xi Jinping depuis Pékin cet après-midi. Notre correspondant permanent sur place nous racontera la cérémonie qu'il a vécue de l'intérieur du nid d'oiseau, ce stade construit pour les Jeux de 2008. L'émotion de la porte-drapeau française Tessa Worley, les crispations aussi diplomatiques et écologiques de ces Jeux qui utilisent une neige 100% artificielle. Dans l'actualité encore, les soupçons de radicalisation n'avaient pas lieu d'être. Victoire en justice pour l'agent de police judiciaire de confession musulmane. 2 ans après l'attaque de la préfecture de police de Paris. C'est une information France Inter. L'Islande remise ses harpons. Pêcher les baleines sera définitivement interdit en 2024. Et puis, nous irons dans les coulisses de la série Game of Thrones à la fin de ce journal. Et au téléphone sonne Claire.
Eh bien, on va parler du cancer à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la maladie. On parlera prévention, dépistage, parcours de soins. Sachant que la pandémie de Covid a bouleversé la prise en charge des patients à tous les stades de la maladie. Rien qu'au niveau du dépistage, 25% de cas en moins diagnostiqués en 2020. Quelles en seront les conséquences? Eh bien, on en parlera avec nos invités. On parlera aussi traitement et recherche. N'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000.
France Inter. Ça y est, c'est bel et bien parti. Les Jeux Olympiques d'hiver à Pékin en Chine. 15 jours de compétition comme une consécration pour des sportifs qui ne rêvent que de médailles. La délégation française est apparue pleine d'ambition en ouverture à la cérémonie d'ouverture, formant le V de la victoire dans le stade. Winnie Claret a pu joindre Tessa Worley, l'une des deux porte-drapeaux de la délégation, juste après.
C'est une très belle cérémonie. Alors l'image en grand du stade, des jeux de lumière, etc., rendait un résultat incroyable. On a pu voir ça sur les écrans. Mais nous, on avait ce regard tout proche sur toutes les petites personnes qui faisaient la chorégraphie et qui participaient à ce jeu de lumière. Et c'était incroyable de voir tous ces danseurs, tous ces participants. C'est des petites fourmis. Ils avaient vraiment des mouvements hyper minutieux, hyper. C'était très très beau à voir. Et c'est toujours une émotion particulière quand même, ce genre de cérémonie.
L'émotion de Tessa Worley, des Français qui étaient bien couverts, contrairement au porte-drapeau des Samoa qui a défilé en tenue traditionnelle par moins 6 degrés, torse nu, pour le folklore d'une cérémonie que vous avez suivie de près. Sébastien Berriot, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Parce que vous étiez, Sébastien, à l'intérieur du nid d'oiseau tout à l'heure, des tribunes qui étaient quand même assez pleines malgré le Covid et du grand spectacle.
Oui, effectivement, dans ce stade du nid d'oiseau, en pleine pandémie de Covid et sous un froid glacial, moins 10 degrés à Pékin ce soir. Ce qu'on peut retenir, c'est l'ambiance qui régnait dans les tribunes. Pas de grand public, mais des invités présents qui ont vibré tout au long de ce spectacle de près de 2 heures avec plusieurs milliers de figurants. Des jeux de lumière assez impressionnants, projetés en 3 dimensions sur un écran géant au sol. Le nid d'oiseau n'était pas plein, mais il y avait tout de même plusieurs dizaines de milliers de spectateurs. Le président chinois Xi Jinping est arrivé masqué aux côtés de son épouse, dont les apparitions sont assez rares. Tous les deux se sont levés pour applaudir au moment du passage de la délégation d'athlètes chinois à ces JO. Xi Jinping a déclaré les Jeux officiellement ouverts. Le président du CIO, Thomas Barr, lui, s'était auparavant exprimé appelant les pays du monde entier à œuvrer pour la paix. Des propos prononcés en pleine crise ukrainienne et surtout à quelques mètres d'un certain Vladimir Poutine.
Et derrière ces images de cérémonie que vous nous donnez à voir, il y a les coulisses. Vous l'avez vous-même vécu. Tout est très contrôlé, Sébastien.
Oui, commencer les Jeux avec un cluster géant lors de la cérémonie d'ouverture, c'est ce que les autorités chinoises voulaient évidemment à tout prix éviter. Ce sont donc des mesures sanitaires spectaculaires qui étaient en place autour de cet événement. Des tests Covid demandés à tous les invités plusieurs jours à l'avance. Aujourd'hui, tout le monde a dû être soumis à des prises de température, on va dire quasi permanentes, toute la journée par le biais de systèmes infrarouges. Surveillance aussi des QR codes sanitaires. Et pour pouvoir avoir le temps de réaliser tous ces contrôles, les autorités avaient demandé aux invités de venir dès midi, alors que la cérémonie ne commençait qu'à 20h. La journée a été très longue.
Sébastien Berriot, notre correspondant permanent depuis Pékin des Jeux Olympiques, au centre de l'attention dans tous les sens du terme. Crise sanitaire, boycott diplomatique et crispation écologique. Parce que pour la première fois, la neige utilisée sera complètement artificielle. Ce matin sur France France Inter, le quintuple champion de biathlon Martin Fourcade avait du mal à comprendre la critique. Pourquoi être stigmatisé alors que toutes les activités humaines ont un impact sur la planète, dit-il. L'électricité utilisée pour transformer l'eau en neige, on s'en sert aussi pour chauffer les piscines. Luc Chemla, bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous avez vérifié, a-t-on une idée de l'impact de cette neige artificielle sur l'environnement ?
Alors oui, pour recouvrir de neige artificielle un seul hectare de piste de ski, il faut au minimum environ 12 000 kWh d'électricité. C'est par exemple 34 fois plus que pour votre congélateur utilisé quasiment tous les jours durant un an. Surtout qu'aujourd'hui, certaines stations françaises ont plusieurs dizaines d'hectares recouverts de neige de culture. Concernant la quantité d'eau due au canon à neige, on est à peu près par an à 30 millions de mètres cubes consommés toutes stations confondues en France. Pour vous donner une idée, c'est environ sur une année la consommation d'eau potable de l'agglomération de Grenoble, soit près de 450 000 habitants. Alors tous ces chiffres peuvent donner le tournis, mais Carlo Carmagnola, chercheur et spécialiste de la neige, demande de relativiser. Oui, il y a un impact écologique, mais il est finalement marginal. Et le scientifique assure d'ailleurs que ce n'est pas le principal problème dans les stations.
On parle beaucoup de neige de culture parce que c'est facile à attaquer, on va dire, alors que d'autres sujets beaucoup plus complexes et qui ont beaucoup plus d'impact en termes d'émissions énergétiques et d'émissions de gaz à effet de serre, on les néglige. Si on prend par exemple le contexte d'un domaine skiable, on sait que c'est moins de 5% l'impact de tout ce qui est lié au ski, c'est-à-dire remontée mécanique, neige de culture, damage, préparation des pistes, etc., en termes de consommation de CO2. Et donc le 95%, voire plus, c'est lié à tout ce qui est transport et tout ce qui est bâtiment, donc chauffage.
Et si on regarde encore un peu plus dans le détail, le coût énergétique des remontées mécaniques est 5 fois supérieur à celui de la neige de culture.
Et voilà pour la neige. Merci Luc Chemla. Des Jeux Olympiques, je le disais, qui sont par ailleurs un concentré de tout, de sport, de politique. Certains pays ont boycotté, la France à moitié, puisqu'elle n'enverra la ministre des Sports que la semaine prochaine. Mais Vladimir Poutine, lui, Sébastien Berriot nous le disait tout à l'heure, était bien présent en tribune cet après-midi pour saluer une relation plus forte que jamais avec son homologue chinois. Sylvain Tronchet est à Moscou.
Depuis Pékin, Vladimir Poutine et Xi Jinping ont fait cause commune dans leur opposition aux États-Unis et réclamé l'avènement d'une nouvelle ère dans les relations internationales. Les deux présidents russes et chinois ont affirmé leur opposition aux alliances militaires occidentales qu'ils considèrent comme des menaces pour leur sécurité, l'OTAN pour la Russie, l'AUKUS qui regroupe l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis pour la Chine. Les deux puissances eurasiennes qui ont développé un début de coopération militaire ces dernières années ont également insisté sur leurs échanges commerciaux en forte progression. Le russe Gazprom a annoncé la signature d'un énorme contrat de fourniture de gaz à la Chine. Les deux pays ont également misé sur la nécessité de développer leurs échanges en monnaie locale, une façon de répondre aux menaces de sanctions américaines, Washington ayant évoqué la possibilité d'interdire les transactions en dollars aux entreprises russes en cas d'invasion de l'Ukraine. Moscou, Sylvain Tronchet, France Inter.
L'Ukraine qui sera au cœur de la rencontre entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine lundi. Le président français sera à Moscou pour voir ce qui peut être négocié pour réduire le dispositif militaire russe. Fait savoir l'Élysée ce soir.
C'est une information France Inter. 2 ans après l'attaque de la préfecture de police de Paris, la justice donne raison à un agent de la police judiciaire que ses collègues soupçonnaient de radicalisation.
Un capitaine de confession musulmane qui avait été suspendu, désarmé avant d'être muté, quelques semaines après l'attaque au couteau qui avait fait 4 morts et 3 blessés. Bonsoir Emmanuel Leclerc.
Bonsoir.
Le tribunal administratif de Paris vient d'annuler toutes les mesures prises contre lui à l'époque.
Oui, dans son jugement que nous avons pu consulter, le tribunal administratif estime que rien ne justifiait les mesures prises à l'encontre du capitaine musulman de la police judiciaire parisienne, d'avoir été désarmé, vous l'avez dit, devant ses collègues. L'interdiction d'accéder aux fichiers antiterroristes alors que c'était le cœur de son métier. Et donc sa suspension pendant 4 mois, la durée maximale. Le tribunal administratif remet donc en cause les arguments avancés à l'époque des faits par le préfet de police actuel, Didier Lallement, et l'ex-ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Le fait que ce capitaine ne faisait plus la bise aux femmes, c'était faux, comme l'a souligné un rapport de l'inspection générale de la police nationale. Les juges estiment surtout que le fait que des policiers et des policières aient menacé via leurs organisations syndicales d'un droit de retrait si leur chef restait en place n'était donc pas un argument valable pour expliquer la suspension de cet officier. Enfin, là où le jugement est peut-être le plus cinglant, c'est sur la durée de la suspension, 4 mois, alors que les services de renseignement avaient très rapidement fait savoir que ce capitaine musulman ne présentait aucun danger, aucun signe de radicalisation.
Information France Inter, signé Emmanuel Leclerc. Après 3 semaines de fouilles intenses et d'importants moyens déployés, les recherches ont été vaines. Les gendarmes n'ont pas retrouvé le corps de Delphine Jubilard à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn. Et nous retournons à présent au procès de Nordal Lelandais à Grenoble pour une nouvelle journée d'audience éprouvante. L'ancien maître chien accusé d'avoir tué la jeune Maëlys il y a 4 ans doit aussi répondre d'agressions sexuelles sur 2 petites cousines. Mathilde Vincenot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes en direct de Grenoble, Mathilde. L'accusé a fait face à ses cousins, parents de l'une d'entre elles, qui était aussi sa filleule.
Oui, des parents qui racontent à la barre leur douleur, leur dégoût, leur colère. Ce sentiment d'avoir été trahi, manipulé par Nordal Lelandais. Ils demandent des explications, la vérité. Dans le box, l'accusé se lève. Je reconnais les faits que j'ai commis sur ma filleule, que j'aime et que j'ai beaucoup aimée. J'en ai honte. Mes cousins ont parlé de dégoût. Ils ont raison. Moi aussi, j'ai du dégoût. J'ai été lâche. Je l'ai fait quand elle dormait parce que je suis incapable de faire ça sur une petite fille éveillée. Puis il s'adresse, sans les regarder, à la famille de la petite Maëlys. Je sais que la famille des Arougeaux se pose cette question. Est-ce que je l'ai fait aussi sur leur fille? Je leur dis honnêtement, non, je ne l'ai pas fait, je suis lâche et je souhaite en rester là. Je suis incapable de répondre aux questions qui vont m'être posées. Ce sont les experts qui le feront. La cour diffuse ensuite la vidéo glaçante de l'agression sur sa petite cousine de 4 ans, mais Nordal Lelandais ne dira rien de plus que ce qui a déjà été prouvé. Il reste sur sa ligne de défense, comme depuis le début de la semaine.
Mathilde Vincenot avec Marc Garvenès, en direct de Grenoble. Quand on joue avec le feu, on se brûle. La réponse de la procureure de la République d'Evreux au couple Balkany, au lendemain de la décision qui ouvre la voie à leur retour en prison, condamné pour fraude fiscale massive, sous bracelet électronique, une centaine d'incidents avaient été recensés ces derniers mois. Ils ne respectaient rien de leurs obligations, assène la procureure Dominique Puechmaille au micro de Mathilde Lemaire.
Monsieur Balkany focalise sur le fait que ça sonnait quand il sortait du périmètre pour aller chercher du courrier. Il n'y a pas que ça. En réalité, ils n'ont jamais voulu respecter ce bracelet. Et les horaires, le périmètre, etc. Il y a eu plusieurs recadrages, guerre d'amélioration.
On parle aussi de propos outranciers à l'égard de qui ?
De la part des époux Balkany, à l'égard du service d'insertion et de probation, voire à l'égard du juge d'application des peines.
Et de quoi on parle ? De propos inappropriés, concrètement ?
Propos inappropriés, coups de poing sur la table. Et puis, il y a l'aspect aussi d'absence d'efforts pour régler la dette fiscale. Versement ridicule par rapport à la dette et au train de vie. Ils n'ont pas voulu comprendre, ils ont voulu jouer avec le feu et au bout d'un moment on se brûle. La loi est la même pour tous. Lorsque l'on commet une infraction, que l'on a été condamné, que la condamnation est définitive, eh bien il y a un moment il faut l'exécuter. Nos concitoyens ne comprendraient pas que parce que ce sont des gens connus, ils ont le droit de frauder le fisc.
La procureure de la République d'Evreux avec Mathilde Lemaire.
L'Islande compte cesser la chasse à la baleine en 2024.
C'est l'un des 3 derniers pays dans le monde à pratiquer cette pêche avec la Norvège et le Japon. Jérémy Richard est à Reykjavik.
Dans un journal local, la ministre islandaise de l'Agriculture et de la Pêche déclare sans équivoque que la chasse à la baleine pèse peu pour l'économie locale ces dernières années et qu'elle nuit à l'image du pays. Sauf indication contraire, dit-elle, il y a peu de justification d'autoriser la chasse à la baleine à partir de 2024. Mais cela fait déjà 3 étés consécutifs que l'activité décriée est à l'arrêt en Islande. L'une des 2 principales entreprises détentrices de licence a même jeté l'éponge en 2020. Seule 1 baleine de minke a été harponnée au cours de cette période, l'an passé, alors que les quotas autorisent au total plus de 400 prises annuelles, à la fois pour le rorqual commun et la baleine de minke, et ce jusqu'en 2023. Les chasseurs invoquent des difficultés à écouler la viande au Japon, qui a repris la chasse de son côté il y a près de 3 ans, ainsi que le Covid-19 et l'extension d'une zone d'exclusion à l'ouest de l'Islande, qui rend l'activité de moins en moins rentable. Le gouvernement doit procéder plus tard cette année à une évaluation du potentiel impact économique et social de la chasse à la baleine. Reykjavik, Jérémy Richard pour France Inter.
Et puis c'est une triste marée grise bleutée qu'a prise en photo l'ONG Sea Shepherd au large de La Rochelle. Il faut s'approcher pour reconnaître des merlus bleus flottant par dizaines de milliers. Ces poissons dont la pêche est soumise à quota viendraient d'un gros navire dont le filet aurait lâché. L'ONG dénonce un pillage. Le ministère demande l'ouverture d'une enquête. Et voici un dossier symbolique en pleine campagne présidentielle. EDF est donc en train de boucler le rachat de l'activité nucléaire Turbine de General Electric qu'Alstom avait vendu il y a 7 ans en accord avec le ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron. Bonsoir Laurent Kramer.
Bonsoir.
C'est l'aboutissement de longs mois de négociations.
Oui, qui ressemblerait sur le papier à une victoire pour la souveraineté industrielle et toute la filière nucléaire française. Mais les salariés d'EDF et les anciens d'Alstom, passés donc sous pavillon américain en 2015 chez General Electric, sont dubitatifs. Début septembre, les salariés de Belfort travaillant sur ces turbines nucléaires sont informés qu'une négociation exclusive est engagée avec EDF. Les turbines Arabel, le savoir-faire des anciens d'Alstom, pourrait donc redevenir français. Une négociation est bel et bien engagée à l'initiative du gouvernement français entre les deux constructeurs, mais le prix et le périmètre exact du retour au bercail reste à définir. General Electric souhaite vendre au prix fort près d'1 milliard d'euros. Ces turbines achetées 7 années plus tôt, EDF de son côté n'a ni la volonté ni les capacités financières d'acheter au prix fort ces activités de turbines historiquement françaises. Un accord aurait bel et bien été trouvé sur ce périmètre et un tarif acceptable pour l'électricien. Le gouvernement caresse donc ainsi l'idée de faire revenir ces anciennes turbines sous pavillon français. Les salariés d'EDF se demandent ce soir s'il est raisonnable d'acheter cette activité sans engagement ni commande ferme sur le nucléaire. Côté General Electric, les anciens d'Alstom se demandent après 4 plans de départ combien de salariés pourront réellement rejoindre l'électricien français.
Laurent Kramer. Et puis écho de campagne, le patron de la Fédération PS du Nord claque la porte et la campagne d'Anne Hidalgo sans soutenir personne d'autre, estimant que la gauche offre un spectacle désolant.
C'en est bientôt fini du Conseil français du culte musulman.
Le CFCM devrait s'autodissoudre dans 2 semaines, remplacé par le Forum de l'Islam de France, le Forif, qui se réunit pour la première fois demain autour du ministre Gérald Darmanin. Derrière ce changement voulu par l'exécutif, une volonté de rupture avec le passé et de défendre un islam indépendant de l'influence des pays étrangers. Mais pour le moment, les fidèles semblent bien loin de ces préoccupations. Reportage à Lyon, Rémi Brancato.
À la sortie de la Grande Mosquée de Lyon, après la prière, le Forif, le nouveau forum pour l'islam de France, n'intéresse pas vraiment les fidèles. Pour Mohamed ou Mustapha, l'important c'est la foi, pas la politique.
J'ai entendu le nom comme ça, mais je ne connais pas les détails. Je ne pense pas que c'est des choses essentielles.
C'est des gens qui peuvent avoir un statut pour nous représenter, pourquoi pas, oui, comme toutes les religions.
Dans son bureau, le recteur de la Grande Mosquée, Kamel Kaptan, reconnaît que les fidèles ont d'autres préoccupations, mais il espère que le Forif permettra de mieux les représenter. À l'image de ce qu'il réalise dans son département, il préside le Conseil des mosquées du Rhône et tente d'unir les lieux de culte.
Par exemple, lorsque une mosquée est en construction, nous pouvons mobiliser toutes les mosquées pour qu'elles puissent participer financièrement à la construction de cette mosquée. On a pensé que la légitimité pouvait s'acquérir essentiellement à partir de la base.
Pour lui, il faut sortir d'un islam consulaire où chaque fédération du CFCM dépend d'un pays étranger et mieux écouter les acteurs de terrain.
Jusqu'à présent, on était musulmans parce qu'on était d'origine algérienne, marocaine, turque ou je ne sais. Et c'est pour cela que j'ai quitté moi, le CFCM en 2011, parce que j'estimais que nous n'avions pas rempli le contrat sur lequel nous étions engagés en 2003, qui était de construire une institution ici en France et nullement ailleurs. Je ne dis pas que le Forif va remplacer le CFCM, ça va être lieu de proposition.
Le Forif doit réunir 100 de représentants musulmans de toute la France.
Un reportage signé Rémi Brancato. Et je vous emmène en Irlande du Nord à présent, à 30 km au sud de Belfast, dans les coulisses de la série Phénomène Game of Thrones. Les studios où furent tournées les 8 saisons de la série médiévale peuvent désormais être visités. Alexis Meyer ne pouvait pas rater ça.
Une ancienne filature de lin, nichée au pied d'une colline verdoyante où broute un troupeau de moutons. C'est bien ici que les scènes d'intérieur de la plus grande série du 21e siècle ont été tournées. 10 000 mètres carrés de studio, désormais reconvertis en musée. L'actrice Natalia Tena, qui jouait la sauvageonne Osha, est ravie de faire partie des premiers visiteurs.
Ça met la lumière sur toutes les personnes qui ont fait le succès de cette série. Les gens qui ont fait les costumes, les masques, les accessoires. C'est tout un univers. Et cette expo reflète bien le gigantesque gigantisme de ce tournage. Ça m'a fait réaliser qu'il faut que je revoie la série, car tout ce qui est évoqué ici me rappelle à quel point c'est vraiment génial.
Des maquettes et des storyboards détaillent les étapes de la création des villes de Winterfell et Port-Réal. Des effets spéciaux vous transforment progressivement en marcheur blanc. Et il est aussi possible d'empoigner les lourdes épées créées par l'armurier Tommy Dunn.
Ici, on a reconstitué le plan de travail qui me servait lors de la fabrication des lances, des épées, des boucliers. Là, ce sont les matières premières pour donner une idée d'où on part. Il y a aussi un stand interactif pour tirer à l'arc. Voilà, bienvenue dans mon atelier.
Même si le tarif, presque 50 euros l'entrée, pourrait bien décourager certains fans, ce studio tour permet de saliver avant le lancement imminent de House of the Dragon, la série dérivée de Game of Thrones.
On a hâte, hein.
Ouais, j'ai l'impression que vous êtes au départ, là.
Dans les coulisses du tournage de Game of Thrones, c'est un reportage d'Alexis de Meyer à écouter en longueur demain matin, juste avant le journal de 7h.
Un très grand merci pour ce journal et un bon week-end. Hélène Fili, on va prendre des nouvelles du temps.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Bonsoir Élodie Galac.
Bonsoir à tous.
Encore un peu de pluie ce soir.
Oui, des pluies qui circulent des Charentes vers le nord-est. Elles glissent vers le sud et vers l'est ensuite. On aura un petit peu de neige en montagne cette nuit. Demain matin, des Pyrénées à l'Aveyron et sur le nord des Alpes, il restera un petit peu de pluie. Beaucoup de nuages et quelques gouttes sur la Corse également. De l'Auvergne au centre-Val de Loire, ce sera bien encombré. Même chose pour le Grand Est et puis ailleurs du soleil, du Mistral, de la Tramontane qui se renforceront jusqu'à 70 à 80 km à l'heure. Et pour les températures, moins 2 à 5 degrés le matin et jusqu'à 10 en Méditerranée.
Et l'après-midi sera plutôt agréable.
Avec de belles éclaircies au nord, un peu plus timide sur le nord-est, du soleil au sud, un ciel un peu plus encombré tout de même au pied des Pyrénées et sur la Corse. Et puis pour les températures, 8 degrés à Nancy, 9 à Lille, Châteauroux, Dijon et Lyon, 10 degrés à Cherbourg et à Toulouse, 12 à Bordeaux, 14 à Marseille et 17 à Montpellier.
Merci beaucoup, Élodie Calac de Météo France.